Les rendez-vous avec Alexandra. Jacqueline Hirsch, présidente de l'association Alexandra David-Nel. C'est tout de suite.
À toutes et à tous. Nous avons quitté Alexandra mardi dernier, tandis qu'elle arrivait à Koumboum en juillet 1918. Elle y séjournera jusqu'en février 1921. Alors Koumboum, c'est un grand monastère très ancien, il date du XVe siècle, situé à Jiangsu, qui est dans la région autonome du Tibet. C'est le plus grand shorten du Tibet, le shorten. C'est le nom tibétain de la stupa qui est une structure d'architecture bouddhiste. Alexandra s'est vraiment beaucoup plu à Koumboum. D'abord, elle y est bien logée. Le silence règne parmi les temples. La vie n'y est pas très onéreuse et on a vu que c'est très important pour elle. Le lieu est prestigieux et les bibliothèques sont bien fournies qui lui permettent donc de travailler. Dès les premiers jours de son arrivée, donc on est en juillet donc 1918, elle participe à la fête des lamas. Deux jours de suite, j'ai été voir les pièces minées et dansées par les lamas. Il y avait une foule énorme de spectateurs, surtout le premier jour. Le spectacle en valait la peine. Les costumes des acteurs étaient d'une richesse inouïe. En vieille soie chinoise brodée. Tout était frais, propre, bien ordonné. Comme les acteurs représentent des divinités du panthéon lamaïque, nombre de fidèles, de leur place, se prosternent dans leur direction, puis s'en vont ensuite rendre le même hommage au chef du monastère, un grand lama qui siège assis, les jambes croisées, sur une sorte de trône surmonté d'un dé. La foi naïve de ces êtres simplistes fait sourire. Il y a en eux un intense besoin de vénérer quelqu'un ou quelque chose. Les festivités terminées, Alexandra David-Nel visite les principaux temples du monastère disséminés sur les montagnes, la plupart très riches et ornés de très belles fresques. Elle écrit « Koumboum n'est pas très haut ». 2200 mètres environ, du moins pas haut pour moi qui ai hanté les solitudes himalayennes à 6000 mètres et dont l'ermitage perché à presque 4000 mètres. Mais enfin, cela vaut mieux que l'air lourd de Pékin et surtout de l'humide Japon. Les montagnes environnantes sont d'accès facile, toutes en pâturage, avec des croupes rondes. Le petit, c'est-à-dire à Fouryongden, le petit et moi en ont gravi quelques-unes. C'est une véritable joie de se retrouver hors des villes et de sentir qu'au sud s'étend le vaste Tibet, à l'est les solitudes du Koukounor, au nord les immenses steppes mongoles. J'ai grimpé jusqu'au sommet d'une montagne située derrière chez moi. La vue de là-haut est très étendue, embrassant plusieurs chaînes de montagnes et de nombreuses vallées. Pas d'arbres, des pâturages à perte de vue. Et là-haut, des troupeaux de moutons, de yaks, de vaches, paissant le long des pentes raides. Maintenant que les fêtes sont terminées, le monastère est plongé dans le calme absolu. Avec Afour, ils vont donc choisir un lama capable de venir lire avec eux des textes un peu difficiles pour se mettre au travail. J'ai été invitée à assister aux grandes discussions philosophiques qui commenceront dans 3 jours. Ces joutes, qui rappellent de semblables tournois oratoires du Moyen-Âge, passionnent les lamas. C'est là que les forts en thème et rhétorique se mettent en valeur. Oh, je suis curieuse d'entendre ce qu'ils peuvent dire et me propose un peu malicieusement de reprendre les discussions, en particulier avec les plus calés d'entre eux. Et puis dans la lettre, tout de suite après, Alexandra philosophe cette fois, mais avec Philippe Nel, son mari. Ce que tu dis au sujet des risques auxquels je me suis exposée en traversant des régions où sévissait la peste pulmonaire n'est pas très exact. Ton rapprochement avec la défense formelle, tu entends bien, de traverser la mer que je t'ai faite n'est pas bien étayé. Toi, tu ne dois pas t'exposer. D'abord, parce que tu es le seul être que j'ai au monde et que tu ne dois pas me laisser toute seule. Et puis, parce que toi, tu es utile, tout au moins à une personne, à moi, et que cela te crée une sorte de responsabilité de père de famille. Moi, je ne suis utile à personne. Ma disparition est sans importance. Mais il y a encore une autre raison. La philosophie que je professe, la vie de méditation que j'ai menée, me permettent de regarder la mort d'un autre œil que ne le font la plupart des gens. Elle est heureuse, mais Alexandra regrette seulement qu'on la prenne souvent pour un médecin. Je suis quelque peu ennuyée par le nombre toujours croissant des malades qui viennent me consulter. Je ne suis pas venue ici pour faire de la médecine. Certains matins, c'est au rez-de-chaussée une véritable clinique. Les dieux malicieux se sont plu pour me taquiner quelques-uns de ceux à qui j'avais donné des drogues, entre autres un goutteux et un bonhomme qui commençaient une pneumonie ou quelque chose d'approchant. Cela a attiré les autres. Il en vient même des villages voisins qui m'amènent des chevaux dans l'espoir de m'emmener chez eux voir des patients intransportables. Oh, c'est pittoresque, mais pas trop n'en faut. Alors les courriers, évidemment, mettent 3-4 mois parfois pour arriver. Il faut dire que le premier bureau de poste est situé à quelques dizaines de kilomètres de Kumbum. Aussi, lorsqu'elle reçoit la lettre de Philippe le 16 septembre 1918, elle lui envoie tout de suite ses vœux pour l'année suivante. À voir le temps que mettent les lettres, je crois que je dois t'envoyer dès maintenant mes souhaits pour 1919. Le meilleur, celui qui, sans nul doute, nous tient le plus à cœur à tous deux, au-dessus de tous les vœux personnels, est que 1919 voit la fin de la guerre et la victoire de la France. J'ai reçu en même temps que ta lettre un paquet de journaux que m'envoient les missionnaires anglais de Sinning. J'y lis que les Boches sont repoussés, avec grande perte d'hommes et de munitions, et ont perdu presque tout le fruit des grandes offensives qu'ils avaient lancées ces mois derniers. Du côté de la Russie, les choses paraissent aussi changer de face. La Sibérie est sans dessus dessous. Les Japonais, quoique sans hâte, se disposent à intervenir et les Chinois envoient des troupes à Kiakhta, à la frontière mongole. Oh, cela vous dit peut-être peu en Europe, ces événements d'Extrême-Orient. Mais ici, nous sommes plus près d'Ourga que de Paris et ce qui se passe en Transbaïkalie ou en Mongolie peut avoir une répercussion directe sur notre entourage. Les troupes de Lhassa se sont emparées de plusieurs villes précédemment occupées par des garnisons chinoises. Le brigandage, sur une vaste échelle, sévit partout en Chine et les voyages par les routes, tant au nord qu'au sud, sont pleins d'aléas, pittoresques sans doute, mais énervants à la longue. Enfin, ici, nous sommes tranquilles pour le moment, bien que, comme je te l'ai écrit, chacun y dorme avec une arme chargée à portée de la main. C'est donc supplication d'un four, et pour me mettre au diapason, je place maintenant, le soir, mon revolver à côté de ma bougie, près de mon oreille. Thank you. Alexandra est paisible dans son ermitage. Ermitage. Le mot ne rend qu'imparfaitement la chose. Je ne suis pas un ermite. Je suis un habitant d'un autre monde et je regarde celui où vous tous vous agitez avec le paisible intérêt d'un spectateur au cinéma. Je parle de la guerre parce que ce sont là choses près de toi et que les Européens de la région s'y intéressent et, obligeamment, me tiennent au courant de ces péripéties en braves alliés qu'ils sont. Mais quoi ? Je me suis replongée ici dans des traductions d'ouvrages philosophiques bouddhistes. Et de là, votre guerre formidable m'apparaît comme la rencontre d'armées de fourmis se disputant la possession de 20 cm carrés de terrain. Qu'est-ce qu'un épisode de cette histoire dans l'histoire des mondes qui surgissent et sont détruits ? Est-ce que l'existence de notre planète tout entière, elle-même, tient une place importante parmi l'infini de l'espace peuplé de terre et de soleil sans nombre ? Regarde, un soir, le scintillement des étoiles, impossible à compter. Pense aux profondeurs infinies d'où nous parvient la petite lumière vacillante que nous entrevoyons de chacune d'elles. Regarde la voie lactée, poussière des mondes, semble-t-il. Pense aux éternités après éternité, aux infinis après infinis dans lesquels tout le monde se meut, et puis compare ce qu'est en regard de cela la vie d'un homme, la vie d'un peuple. Mais tais-toi, le seul lien qui me reste, je ne me remettrai jamais les pieds en Europe. Mon moi asiatique s'y trouve mal. L'Asie m'a toujours été douce. C'est une terre calme que toutes les agitations superficielles qu'on peut rencontrer n'ébranlent pas profondément. L'Inde a pensé des choses que les Occidentaux ne comprendront sans doute jamais et que, sans bien les saisir non plus, les plus simples, les plus illettrés de ces filles de race d'adoption pressentent pourtant. Et oui, pourtant, Alexandra est toujours lucide, pragmatique, et revient dans sa lettre à Philippe sur une question importante et qui la tourmente. J'ai réservé pour la fin ce qui me semblait le plus important. Je te le dis, je suis en bonne santé, mais l'idée de la mort est avec moi, toujours présente, avec une insistance régulière. Cela ne m'empêchera pas d'atteindre et de dépenser 80 ans comme mes parents, mais qui sait ? Je voudrais donc régler nos affaires d'intérêt puisque la mort de ma mère a changé ma situation. Tu devrais avoir une copie de notre contrat de mariage et aller la faire lire à un avocat ou à un notaire très compétent et lui demander de me rédiger une formule de testament que je pourrais copier. Oh, inutile de lui indiquer aucun chiffre. Cela ne le regarde pas et c'est inutile pour la consultation que nous voulons de lui. Il me reste de libre la moitié de mon avoir actuel, puisque mes parents sont tous deux morts, eux qui étaient mes héritiers réservataires, comme dit le code. Cette moitié, je tiens naturellement à ce qu'elle te revienne, comme l'autre moitié qui figure dans notre contrat. C'est-à-dire que tu dois être, à part l'argent que je veux, comme tu le sais, laisser à mon domestique et les legs de livres à la Société bouddhiste de Londres, tu es mon unique héritier. Je te consulterai aussi sur un point. Si je désire que tu hérites de moi, je ne désire nullement, d'autre part, que moi, morte, et toi, disparue ensuite, ce qui me vient de mes parents aille à ta famille, qui m'est peu connue et n'a besoin de rien. Je n'ai moi-même aucune attache et souhaite que cet argent aille à des sociétés savantes pour l'encouragement des études orientalistes. Comment arranger cela ? Plus tard, Alexandra oublie ses affaires d'argent et part en excursion, on dirait randonnée aujourd'hui, avec Afour. Nous avons franchi 6 cols, déambulé à travers des pâturages pleins de yaks et de moutons, traversé des steppes désertes. Tout cela nous a mené au bord d'une claire rivière au pied de hautes montagnes dont les sommets sont déjà couverts de neige, décor qui me rappelait vivement le Tibet septentrional et mon propre ermitage. Autour, solitude complète. Et cette atmosphère de majestueuse sérénité propre aux hautes montagnes. Ah, que l'on était bien. Il faut avoir, comme je l'ai fait, vécu dans cette vie d'isolement parmi des sites grandioses pour savoir combien odieuses sont les villes bruyantes, les foules vulgaires qui s'y pressent et toutes ces hideurs depuis les réclames lumineuses qui troublent la beauté des nuits jusqu'aux trains beuglant à travers les campagnes et salissant tout de leur fumée jusqu'aux hôtels abritant des touristes snobs et niais jusqu'à, enfin, tout ce que le commun des mortels décore du nom pompeux de civilisation. Au retour, nous croisons une caravane allant je ne sais où, une cinquantaine de yaks chargés et trois hommes à cheval fusillés en bandoulière. Jolis dans le soir qui tombe rapidement, parmi ces montagnes désertes, ce lent cortège de yaks, ces hommes à la figure muette, énigmatique, qui s'en vont vers les hauts lieux mystérieux. En dépit de l'habitude de ces choses vues mille fois, je ne suis pas blasée et ne le serai jamais. Le même frisson me reste, le même qu'autrefois, alors que je lisais les descriptions de scènes pareilles. La sensualité, chacun la place selon son tempérament. Moi, j'ai celle de la solitude, du silence, des terres vierges que ne dépare aucune culture, des grands espaces et de la rude vie sous la tente des nomades de l'Asie centrale. Je m'y abandonne, je me roule en l'air, plus que la sagesse ne le voudrait sans doute. Après tout, est-ce folie si grande? Le désert parle avec d'autres voix que les boulevards à Paris, et chacun n'est-il pas en droit de préférer la musique qui lui plaît le plus? En novembre, Alexandra fait le récit à Philippe de la bénédiction qu'elle lui donne, parce qu'on lui demande, à plus d'une centaine de personnes. Je fais l'expérience, un peu fatigante, d'avoir à bénir une grosse centaine d'individus des deux sexes qui se précipitent sur mon passage, entrechoquant leurs têtes inclinées dans une cohue, faisant penser à un troupeau de moutons effarés. Le pape et les évêques de l'église de Rome ont su arranger les choses de façon à ménager leurs veines. Un geste de la main suffit à satisfaire plusieurs milliers de fidèles. Il n'en va pas de même au Tibet, où chacun veut sa bénédiction individuelle. Il faut que la tête du dévot soit touchée par quelque chose, les mains du lama, ou son rosaire, ou son dorji, c'est-à-dire une espèce de sceptre. Je me souviens d'avoir lu dans les chroniques de l'époque un mot attribué à Madame du Barry. Il paraît que le jour où, à force d'intrigue, elle obtint d'être présentée officiellement à la cour de son royal amant, elle dit en descendant du carrosse qui l'a ramenée au château de Versailles, « J'aurais voulu être à une fenêtre pour me voir passer. » Cette parole, vraie ou non, de la favorite, me revient à l'esprit, tandis que je distribue de multiples bénédictions. Moi aussi, je voudrais bien être quelque part à une fenêtre pour me regarder opérer. Je crois que j'y puiserai un fond de gaieté et de fou rire qui durerait autant que ce qui me reste de vie. Ces braves gens, je ne me moque pas d'eux. Ils ont les idées de leur race et de leur pays. Ils ne sont pas plus stupides que nous ne le sommes. Souvent, d'ailleurs, ils le sont moins. Ce qu'ils espèrent de l'imposition des mains, et pourquoi ils espèrent, je le sais. Et en fait, c'est beaucoup moins absurde qu'on ne pourrait le croire. Ils croient à la contagion en matière spirituelle, comme nous y croyons en ce qui concerne les maladies. Je suis, moi, celle qui connaît les livres saints, qui sait les lire qu'il comprend, enfin, il le pense, les innocents. Je suis celle qui médite, qui pendant des jours, restait enfermée, invisible même pour mes serviteurs, sans prononcer une parole, et qui certainement doit durant ces périodes, pénétrer dans un monde où la pensée du vulgaire n'a pas accès. Un monde au-delà de celui où l'on est heureux puis malheureux, où l'on se donne du mal, où l'on naît, où l'on meurt. Ils ont entendu à travers les récitations les psalmodies incohérents de leur lama, un mot qui se dit nirvana au pays du Sud et tongtani, c'est-à-dire le vide en soi parmi les bouddhistes du Tibet. Il y a là un mystère auquel ils ne cherchent pas à avoir un accès immédiat. Et cependant, ils croient que là est le but à souhaiter, l'unique objet d'être digne d'être recherché. Voilà pourquoi ils s'empressent auprès de ceux qui leur paraissent être familiers avec le grand secret de l'au-delà, du cercle des renaissances, ceux qui ont vu, ceux qui n'ont pas vu, et marchent dans une autre voie qu'eux. Ce qu'ils murmurent, c'est « Puis-je renaître intelligent, capable de comprendre la doctrine, puis un jour atteindre la délivrance ?» Le 21 novembre, Alexandra reçoit du courrier, une lettre de Philippe du 27 juillet, et surtout par deux fois, deux cartes postales envoyées par des missionnaires anglais qui lui annoncent la fin de la guerre. Nouveau gouvernement en Allemagne, grand désordre, les Boches demandent un armistice, l'Autriche demande la paix à tout prix, les Roumains expulsent les Allemands. Le second télégramme ne contient qu'une phrase, Kaiser abdica, a fui l'armistice, j'ai pensé que vous aimeriez voir ce télégramme, n'est-ce pas une bonne nouvelle? Si c'est une bonne nouvelle, mais cela ne se demande pas. Je confesse que j'ai éprouvé une seconde émotion subite qui m'a fait monter les larmes aux yeux, si détachée que je sois aujourd'hui de tout ce qui touche au monde. Demain, nous confectionnons un grand, très grand drapeau français et nous allons le planter sur une montagne d'où les villages voisins le verront. Enfantillage peut-être, mais il est bon de faire savoir à tous ces gens qui ont été travaillés par les émissaires Bosch que ceux-ci sont près de leur fin. Car c'est certainement la fin maintenant. Il est temps. Mais combien de Français ont été admirables d'endurance, de sang-froid, de résolution? On les croyait une race en décadence? Ils ont étonné le monde et recevront leur récompense. La victoire, c'est la reprise de l'Alsace lorraine. Et question de sentimentalité à part, c'est un beau morceau qui vaut quelques milliards. Je pense bien que d'autres compensations nous seront accordées. Tous les peuples de l'Asie regardent ce qui va arriver. Et les uns sur les ménages s'empresseront de publier qu'ils n'ont pas été si vaincus que cela, qu'on les craint toujours et n'ose pas exiger trop d'eux. Et toujours réaliste, Alexandra Lévinel, hein, toujours terre à terre. Et elle conclut, je crois que les Boches, parce qu'ils ont changé leur gouvernement en sentant venir la tempête, ne se livreront pas en quittant la Belgique aux excès qu'on aurait pu atteindre des uns d'anciens régimes. Les nouveaux venus craindront les représailles et chercheront à amadouer les alliés. Ceci pour dire qu'il est probable que ma petite fortune en valeur nous reviendra intacte quand nous pourrons de nouveau entrer en relation avec la banque. Décidément, Alexandra ne perd jamais la tête. Et elle se sent très très bien, Kumbum, car elle conclut sa lettre avec son admiration pour la neige de ce pays. Il fait beau, beau, mais quel climat merveilleux! Afour et moi avons fait notre première grande promenade sur la neige à travers les montagnes. C'était bien joli, je te l'assure, de se trouver courant sur la belle neige blanche avec de hautes bottes de feutre rouge qui tiennent les pieds au chaud. Puis nous allons célébrer à Kumbum l'anniversaire de la mort de Tsongkhapa. Chez les bouddhistes, la mort, surtout celle d'un grand homme, n'est pas un événement triste, bien au contraire. Donc le festival n'avait rien de funèbre. On a illuminé tous les temples pendant plusieurs soirées, tandis que les toits de ceux-ci Les novices là-bas soufflaient dans des conges marines ou exécutaient une musique plus savante sur des instruments variés. C'était vraiment joli, des millions de lampes brûlant sur les flancs des montagnes. Mais l'optimisme d'Alexandra va s'amenuisant en décembre avec l'arrivée du grand froid. Moins 20 degrés dehors, moins 3 à 5 dedans. Carrefour est malade, comme beaucoup de personnes à Combo. Elle n'aime pas que Carrefour soit malade, mais elle écrit « Il manque tout à fait d'énergie dès qu'il a le moindre bobo. La plupart des Asiatiques sont pareils. Nous comprenons difficilement cette mentalité. Il y a chez eux un manque complet de cette volonté réagissante qui aide puissamment à combattre une maladie, quelle qu'elle soit. » Mais quelques jours après, et me voilà avec la fièvre qui m'envahissait, m'efforçant de raviver le feu, de faire bouillir de l'eau. Oh, c'était chose faite vers le milieu de la nuit. J'étais brûlante et je claquais des dents, recroquevillée sous mes couvertures. Au matin, je toussais péniblement et battais un peu la campagne sous l'influence de la fièvre. Nous laissons Alexandra de Villeneuve dans sa fièvre et dans son gros rhume, mais nous la retrouverons la semaine prochaine. À bientôt.
Thank you.